Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif. Nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Marmite fait son actu, l'émission qui vous parle de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs sur Marmite FM 88.4. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 18h avec nos invités du jour, François Apicella, Cyril Longuepé, Philippe Tellier, membres du collectif Saint-Quentinois pour le climat. Ils seront avec nous pour nous parler de la première marche pour le climat organisée à Saint-Quentin-en-Yvelines ce samedi, donc le 25 mai. On en parle tout à l'heure. Dans Marmite Actu, vos chroniques préférées seront à l'honneur, chronique ciné avec Cindy. Cindy qui est allé voir le film The Dead Don't Die et vous dira ce qu'elle en a pensé. L'actu du cinéma Le Grenier à sel, c'est avec Gaëlle qui revient de la croisette. La consommation responsable avec Chloé qui vous parlera des compétences de l'Union européenne en matière d'écologie et des votes de nos députés européens actuels en matière d'écologie. Le flash d'actu local à 17h30 et en fin d'émission, Shaima vous présentera Kios, une nouvelle plateforme lancée par la région Île-de-France pour apprendre les langues étrangères. On ne change pas nos habitudes, on commence cette émission en chanson. Avec Delgrise, le trio rock sera en concert à la batterie de Guyancourt le vendredi 7 juin à 20h30. Le titre « Ti Mamzel ». Musique.
Ti Mamzel, ou tout belle, ouvrez-moi un miaha. Mamzelle, c'est où qui règne? Moi, je peux faire une musique bah. Mais moi, j'avoue, j'en carré. Bouche à moi, l'un car chanté. T'es mon putain qui changé. On m'a l'épée bien arrivé. Ça fait moi mêler.
Je vois Jean-Claude regarder. Là, moi, l'encadre.
Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur le 88.4. Et pour les retardataires, séance de rattrapage le vendredi, même heure, donc de 17h à 18h. Alors, on va commencer cette émission avec du cinéma. Cindy, alias le soleil de la marmite, pour sa critique cinéma, elle est allée voir le film The Dead Don't Die. Elle dit ce qu'elle en a pensé.
Bah oui, parce que moi, je voulais faire du cinéma.
Hasta la vista, baby.
Vers l'infini et au-delà.
Allô?
Salut Cindy. Quel est ton film d'horreur préféré?
Bonjour à tous. Edward Baer, dans un anglais approximatif, l'a introduit comme un rocker aux cheveux d'argent lors de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Le cinéaste Jim Jarmusch, qui a en effet un je ne sais quoi lynchien, enfin si, tout est dans le coiffé, décoiffé de la mèche. Bref, Jim Jarmusch était présent pour lancer la compétition officielle avec son dernier film The Dead Don't Die.
Dans cette ville paisible, une chose horrifique va arriver.
Excusez-moi, c'est fermé.
C'est épouvantable. Probablement la pire chose que j'ai vue.
C'était quoi, plusieurs bêtes sauvages?
Je pense à des zombies.
The Dead Don't Die, également musique lancinante qui rythme tout le film, nous plonge dans une bourgade américaine perdue au milieu de nulle part, dénommée Centerville, où les morts déguerpissent de leur tombe car la terre est sortie de son axe. Et les zombies, bah, comme tous les zombies, ils veulent avaler tout cru les vivants. C'est l'apocalypse.
Des zombies mangeurs de chair humaine.
Arrête, c'est pas drôle du tout, c'est vraiment trop flippant.
Ils gravitent autour des activités qu'ils pratiquaient quand ils étaient en vie.
Chardonnay.
Elle vient de dire chardonnay.
Dans le rôle des trois flics confrontés à ce petit incident fâcheux, on a Bill Murray, Adam Driver et Chloé Sevigny qui forment à l'écran un trio disparate et amusant, notamment quand ils brisent le quatrième mur. Finalement, l'attaque de zombies, bah, ça les surprend pas trop. Hein. Après tout, il y a pléthore de films sur le sujet, il suffit de leur fracasser la tête. Et la plus douée dans cet exercice est Zelda Winston, gérante de la morgue locale, interprétée par Tilda Swinton, à la croisée entre son personnage dans Doctor Strange et Uma Thurman dans Kill Bill. Un casting 3 étoiles avec aussi Tom Waits en ermite de la forêt et une apparition du rappeur Reza.
J'ai une certaine confiance en mes capacités à me défendre contre les morts vivants.
C'est ce que je vois.
Excusez-moi.
C'était un beau geste technique. T'as dû être un bon joueur de baseball. Ben, j'ai joué en ligue mineure.
The Dead Don't Die, à la fois étrange et drôle, ne manque pas d'aborder des thèmes qui semblent chers à son auteur. Il règle notamment son compte à Donald Trump, climato-sceptique au discours virulent sur l'environnement, et à la horde de citoyens américains qui le croient sans sourciller. En gros, il fustige ceux qui gobent tout ce que les médias disent et invite les gens à se réveiller avant que les morts ne le fassent et viennent tous nous bouffer. Autre thème, les zombies, évidemment. Et ce n'est pas forcément ce qu'on pense. Je veux dire, genre les bons hommes qu'on dirait tout droit évadés du clip de Thriller. Non, non. Et si les zombies, c'était vous, dit en substance Jim Jarmusch. Les zombies, dans son film, parlent. Et les seuls mots qu'ils ont à la bouche, c'est Wi-Fi, Chardonnay ou Café concernant le zombie d'Iggy Pop. Ce qui les rend encore plus effrayants. En gros, nous sommes parfois happés par le vide intersidéral de notre société et il faudrait peut-être nous remettre en question. Enfin bon, moi, j'ai pu profiter de voir ce film dans l'un des 550 cinémas partenaires qui retransmettaient l'ouverture du Festival de Cannes en direct. Et si vous n'avez pas eu cette chance, eh ben c'est pas grave, The Dead Don't Die est toujours à l'affiche. Et comme d'hab, je vous quitte sur un petit conseil que je vais moi-même suivre car je ne l'ai pas vu. Broken Flowers de Jim Jarmusch avec Bill Murray. C'est tout pour moi, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Cindy. Et puisqu'on parle de cinéma, eh bien on enchaîne avec Gaël qui vient d'arriver. Il revient de la croisette, il est tout bronzé. Ah, c'était sympa. Allez, jingle.
Tout de suite, l'actualité du cinéma Le Grenier à sel avec Gaël.
Non, t'es pas bronzé.
Alors, détrompe-toi, c'était pluvieux et on avait des parapluies tout le temps, on avait les pieds trempés. Non, pas du tout bronzé, non.
Voilà, donc c'était pas Cherbourg, mais voilà, vous aviez tout le temps des parapluies.
Oui. Ouais, ah, bon. T'as les bonnes références, c'est bien les parapluies de Cherbourg. Tu t'y connais en cinéma.
Quelques-unes des rares références que j'ai là, parce que je suis connu pour être très bon en cinéma. Bref, on ferme la parenthèse. Alors, raconte-nous, comment ça s'est passé à Cannes, Gaël?
Alors, c'était une année très très intense pour nous. J'ai vu plus d'une vingtaine de films en une semaine. Le festival n'est pas fini. Et comme tous les ans, en tant que cinéma RSC, on vient 3 jours avant le festival et on a des colloques, des conférences, des réunions, des projections, des tables rondes et tout ça pour le réseau RSC. Et donc, en 3 jours, on commence à 9h du matin, on finit à 1h, 1h30 du matin. Mmh. Et ça recommence comme ça le lendemain pendant 3 jours. Donc, c'est très intense. On voit beaucoup de films, on discute beaucoup. Et là, il y avait notamment les tables rondes sur la rénovation des salles. Donc, évidemment, ça m'intéresse énormément de parler de ces sujets. Il y avait des conférences basiquement sur la RSC, le réseau, les films, les plateformes de VOD aussi, puisque ça nous taquine un petit peu.
Ouais.
Sur l'étude des publics, la communication digitale. On a un petit peu parlé aussi d'un truc, ça fait quelques années qu'on en parle, c'est Disney qui voulait racheter la 20th Century Fox. C'est donc fait depuis quelques temps. Et les conséquences que ça va avoir. Voilà, donc est-ce que Disney va aussi offrir une plateforme de VOD, mais est-ce qu'ils vont continuer à sortir des films en salle? Est-ce qu'ils vont faire plus de produits pour la VOD? Est-ce qu'ils vont pas faire des séances événements genre à Bercy ou au Zénith et puis le film ira directement en VOD et puis fini pour les salles? C'est des choses qui sont possibles puisqu'ils vont avoir, je rappelle, hein, ils vont du coup les anciens Star Wars, les nouveaux Star Wars, les Marvel, les Ghibli, les Avatar, les tout. Les Pixar, etc., ça leur fait une collection incroyable. Bon, c'est pas encore le sujet, on n'en est pas encore là. Mais on a aussi eu j'ai fait pas mal de réunions avec les différents fournisseurs. On a eu des discussions sur la mutualisation. La mutualisation, il y a des cartes d'abonnement qu'on essaie de développer encore à plus large échelle. Donc nous, on a une carte bande dessinée qu'on a développée juste sur notre petit réseau local. Et on a parlé aussi d'associations départementales. On envisage un jour de créer une association départementale de cinéma indépendant des Yvelines. Donc c'était aussi l'occasion de rencontrer un petit peu les différents soutiens, financeurs, les différents cinémas aussi, puisque des Yvelines, j'étais pas seul. Mmh. On s'est retrouvés quand même à plusieurs, donc c'est plutôt... C'était une année très 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 riche en rencontres.
Voilà. Donc là, comme tu disais tout à l'heure, le temps que ça décante, voilà, que tu... Tu mets tout ça,
oui,
peut-être par
j'ai
écrit,
vu,
tout ça.
Je t'ai dit, j'ai vu plus d'une vingtaine de films. Exceptionnellement, cette année, il y a un jour où j'ai pas pu voir de films parce que j'avais tellement de réunions. C'est incroyable à Cannes de faire une journée sans voir de films. D'habitude, on en voit beaucoup plus. On en voit beaucoup, beaucoup. Tu me demandais tout à l'heure quels étaient mes coups de cœur. Dans les films que j'ai vus, il y avait Les Misérables de Lajli, qui était un film sur la banlieue, à Clichy-Montfermeil, avec des flics de la BAC, les jeunes de banlieue, tout ça, c'est un constat sur la réalité sociale du terrain, c'est assez incroyable, un film très humain, et filmé du point de vue, on voit les points de vue de tout le monde, et du coup on comprend les raisons de tout le monde, et on comprend que le moindre petit rien du tout peut faire déraper l'un, puis déraper l'autre, et que ça s'envenime, etc., c'est assez, c'est très bien. Ouais. J'ai aussi vu le Ken Loach, j'ai aussi vu un film franco-algérien qui s'appelle Papicha sur des jeunes femmes algériennes donc à Alger dans les années 90, à l'époque où ça pétait partout. Mm-hmm. Un film avec une jeune femme très forte, une actrice qui porte le film et qui est phénoménale. Et j'ai vu un film qui s'appelle J'ai perdu mon corps, et c'est l'histoire d'une main qui veut retrouver son corps. Et c'est un film d'animation.
Ouais.
Et il est super. Donc, parce qu'en fait, cette histoire de main, c'est juste une histoire. C'est un fil rouge, mais en fait, on suit. Il y a des flashbacks sur l'histoire de cet homme, en fait, de la vie de cet homme qui arrive à perdre sa main. Et c'est incroyable. C'est vraiment une très belle histoire. En plus, l'animation est phénoménale. Le son nous emporte complètement. Et je m'attendais vraiment pas à ça. L'affiche, on voit une main coupée. Enfin, une main coupée, c'est très propre. Hein. On voit une main. C'est très stylisé. C'est très joli.
Main propre.
Mais, en tout cas, quand je le passerai, je vous conseille de venir le voir parce que je vais le passer, c'est sûr.
Bon, voilà. En tout cas, voilà, tu reviens avec plein de souvenirs de Cannes, certainement des films qu'on verra à l'affiche au Grenier à Sèvres.
Mais oui, très prochainement, je viens de finir la programmation du mois de juin, et donc le Jarmusch, là, dont parlait Cindy, que j'ai vu aussi, il est... Alors je peux vous le dire, je vous donne mon avis, c'est un film très sympa, des acteurs très sympas, je le trouve un peu léger, je trouve qu'il y a beaucoup de... Il y a des références, mais des fois il a plus piqué des choses, mais... On sourit et puis on se retrouve. Moi, je me retrouve pas dans le Jarmusch que j'ai pu. Il en a fait des bien meilleurs que celui-là. Mais c'est un film sympa.
Mais c'est un film.
Sinon, sympa. Je l'aurais pas programmé hein, s'il était vraiment pas bien. Donc, le Jarmusch, le Almodovar, Sibyl de Justine Triet aussi. Il y a pas mal de films de la sélection de Cannes. Tous ceux qui sont sortis là, ça y est, ils sont déjà datés. Donc, dès maintenant, vous pouvez les retrouver sur notre site internet que je cite tout de suite, cinemagreniersel.com.
Bah justement, dis-nous un petit mot rapidement sur les films à
l'affiche. Je vous dis les films de cette semaine. Bon, ça y est, Avengers arrive, c'est la fin, c'est le dernier épisode. Il faut en profiter, il faut venir le voir. Si vous l'avez déjà vu, revenez. Si vous ne l'avez pas encore vu, venez. Sachez quand même qu'il dure 3 heures. Donc, vous êtes prévenus. Et puis, il y a une petite surprise. Il y a une petite surprise de Spider-Man à découvrir chez nous avant et après le film. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas, restez jusqu'à ce qu'on allume la lumière. Restez jusqu'au bout.
Donc il y a une surprise.
Même si le générique dure 10 minutes, comme ils savent le faire, restez jusqu'au bout. Bon, nous avons... j'ai un petit peu manqué dans ma programmation au Star is Born, mais ça, c'était pas complètement volontaire. J'ai pas réussi à l'avoir au moment où je voulais. Tu voyais ce que c'est, Star is Born ? Ben, je vous en parle dans 2 secondes. C'est un film de et avec Bradley Cooper, avec aussi Lady Gaga. C'est l'histoire d'un musicien de musique country dont la carrière carrière musicale, il était très connu et que ça commence à baisser un petit peu. Et il rencontre une jeune femme qui a un talent phénoménal et il décide de la porter, de l'accompagner. Et du coup, elle joue avec lui. Puis en fait, pendant qu'elle monte, bah, lui, il descend un petit peu. Donc, c'est un petit... Il se retrouve confronté à ça, à une personne qui du coup prend le pas sur lui. C'est un film qui est sorti il y a quelques mois, qui avait fait un très bon succès, qui a eu un très bon succès. J'ai pas réussi à l'avoir au moment où je jouais.
Aux Oscars.
Qui a eu les Oscars, notamment meilleure musique. Mm-hmm. Tout à fait. Et quand je voulais le passer, j'ai pas réussi à l'avoir, puisqu'il était dans d'autres salles. Et après, malheureusement, j'ai pas trouvé de place. Ça arrive, j'ai qu'un écran. Le Grenier à sel, c'est un mono-écran, donc on peut pas avoir tout ce qu'on veut. Bref, je me rattrape, puisqu'il y a une version longue inédite qui ressort, qui arrive. Donc, il y aura une séance dimanche 26 à 20h45. Donc, version longue, il y a rajouté 12 minutes de film. C'est des musiques, c'est de la musique supplémentaire, c'est des versions un peu plus longues sur des chansons. Donc, ça vaut le coup de venir le revoir ou de le découvrir si vous l'avez manqué ailleurs. On a aussi Victor et Célia, qui est une comédie française de Pierre Jolivet, dans lequel on retrouve Arthur Dupont et Alice Blaydi. Ces deux jeunes gens se regroupent pour ouvrir un salon de coiffure et évidemment ça, ils vont pas y arriver, ça va tourner court et ça va un petit peu tout va un peu capoter entre eux. Une comédie française, donc vraiment sympa. On a aussi Cœurs ennemis, qui est tiré d'un livre et d'une histoire vraie. Ça se passe à Hambourg en 1946. Un officier anglais est chargé de la reconstruction de la ville. Donc il cite que Hambourg, en une semaine, s'est pris plus de bombes que Londres pendant toute la guerre. C'est pour dire que la ville a été complètement saccagée. Et pour venir travailler, il va emménager dans une nouvelle demeure qui est une grande maison et il décide que les anciens propriétaires peuvent rester habiter dans cette maison. Donc il y a une cohabitation qui va se faire entre ces deux. La promiscuité forcée avec l'ennemi va nous faire vivre quelques surprises. On y retrouve Alexander Sarsgaard, Keira Knightley, Jason Clarke. Et nous continuons encore, nous finirons ensemble. La suite, c'est le film de Guillaume Canet, avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lelouch. On avait déjà programmé la semaine dernière. Et voilà, j'en viens à la fin. Nous avons aussi la fameuse séance annuelle des projections des films des lycéens. Donc il y a une option cinéma au lycée de la Plaine de Naufle. Et tous les ans, depuis quelques années, nous projetons leur production sur grand écran, en public, séance gratuite. Et il y aura un jury pour choisir le film qui aura la chance d'être projeté à la rentrée, donc en septembre, devant un film d'actualité.
Ah, c'est vendredi.
Et donc, ce sera ce vendredi 24 à 18h30. Il y en a pour à peu près 2 heures.
Merci Gaël. Donc, si vous souhaitez plus d'informations, hein, n'hésitez pas, cinemagreniersel.com. Donc, cinemagreniersel.com. Rendez-vous la semaine prochaine.
Oui, merci Nouradine.
Allez, sans transition, on passe aux invités de Marmite Actu.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
François Apicella, Cyril Longuepée et Philippe Tellier sont avec nous. Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour.
Alors, vous êtes tous les trois membres du collectif Saint-Quentinois pour le climat. Et votre collectif organise la première marche pour le climat de Saint-Quentin en Yvelines. Cette marche s'inscrit dans la continuité de marches déjà faites, hein, à Versailles et à Saint-Germain. Et puis aussi plus globalement, il y a eu beaucoup de marches pour le climat un petit peu partout dans le monde. Est-ce qu'on pourrait commencer d'abord par cette volonté d'organiser une marche spécifiquement ici à Montigny-le-Bretonneux, à Saint-Quentin en Yvelines et à Montigny également, parce que c'est à Montigny.
Oui,
Cyril Longuepée pour commencer.
Oui, en même temps, effectivement, vous avez raison de dire que c'est à Montigny-le-Bretonneux, puisque c'est là qu'elle va avoir lieu la marche, elle va partir de la gare et elle va finir au théâtre. Mm-hmm. La volonté, c'est simple, c'est qu'il n'y en a jamais eu à Saint-Quentin. Ouais. Donc, comme vous l'avez dit, il y en a eu 5 au niveau national, il y en a eu 3 à Versailles, 1 à Saint-Germain. Et il n'y en a jamais eu à Saint-Quentin, et il faut mobiliser au niveau local, parce que les solutions sont au niveau local.
Philippe Tellier.
Oui, je rajouterais que Saint-Quentin, c'est la deuxième ville du département, donc c'est intéressant de voir un peu la réponse du public par rapport à ces problèmes et ces enjeux.
Alors, quel est l'objectif de cette marche pour le climat?
Alors, l'objectif, c'est de rassembler un maximum de personnes samedi matin, de montrer à la ville nouvelle, aux décideurs de cette ville nouvelle, la volonté des citoyens, des habitants, d'agir efficacement contre le réchauffement climatique, contre les problèmes climatiques, environnementaux, les problèmes de pollution qui sont là déjà aujourd'hui et qui s'aggraveront par la suite. Donc c'est de faire un mouvement le plus large possible, de montrer qu'il y a une vraie volonté de la part des habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines, okay, et puis de propager encore et de continuer à agir, nous au niveau des citoyens en tout cas, contre cette menace, hein, qui va peser sur les générations futures, plus gravement encore que pour notre génération, puisque nous avons 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais nos enfants vont connaître ça dans quelques années, dans quelques décennies, et les problèmes ne seront plus les mêmes et seront à un autre stade.
Alors est-ce qu'on pourrait peut-être pour les auditrices, les auditeurs qui ne connaissent pas forcément cette question du réchauffement climatique, même s'ils en entendent parler peut-être régulièrement dans les médias, mais pas dans le détail, est-ce que c'est quelque chose qui fait un consensus dans la communauté scientifique?
Oui.
Cyril Longuepée, oui. Parce qu'on a entendu récemment des remises en question dans des émissions peut-être un peu caricaturales, mais bon, on l'a entendu quand même.
Oui, mais effectivement, alors chacun a son avis sur la question. Il y a de tout au niveau des citoyens. Dans tous les sens, il y a toutes les possibilités, tous les extrêmes qui s'entendent. Mais par contre, au niveau de la communauté scientifique, des experts, toutes les personnes compétentes sur ce sujet, il y a quand même un large consensus, on va dire l'unanimité, mais au moins un consensus sur le fait que ce réchauffement climatique, il existe, ouais, d'une part, que deuxièmement, il est le résultat de l'activité humaine, c'est pas le fait du hasard, c'est pas quelque chose sur lequel on n'a pas de prise, que les effets se font déjà sentir, d'une part, et que on les voit déjà, hein, il y a déjà 2 pays qui ont dû changer, qui ont dû déplacer leur capitale, et bientôt un troisième. Donc c'est pas anodin. Bon, donc les années à venir vont être déterminantes. Voilà, quand je dis les années à venir, c'est les 2-3 années à venir, hein. c'est pas les 50 ans à venir, c'est vraiment à très très court terme.
Philippe Tellier.
Je rajouterais que parmi la communauté de scientifiques, il y a quelqu'un de chez nous qu'on connaît bien, en tout cas qui est chercheuse sur le plateau d'Orsay au CEA, c'est Valérie Masson-Delmotte, qui, il y a encore quelques années, était inconnue du public, mais elle s'est révélée parce qu'elle a voulu justement contrer les arguments des climato-sceptiques. Et c'est comme ça qu'on l'a découvert à la télé. Et depuis, elle n'arrête pas de prêcher, si je puis dire, la bonne parole pour alerter les décideurs. Donc Valérie Masson-Delmotte, elle travaille ici, quasiment dans notre ville, en tout cas sur notre territoire.
À l'UVSQ.
Voilà. Et puis je rajouterai Jean Jouzel, qui est aussi un ancien vice-président du GIEC, parce que Valérie Masson-Delmotte, elle est coprésidente du GIEC, hein, le fameux regroupement de scientifiques qui n'arrête pas d'alerter les élus. Et donc Jean Jouzel est aussi à l'UVSQ, en tout cas à l'université,
à l'observatoire, à l'OVSQ.
Simon Laplace, mm-hmm. de Saint-Quentin-en-Yvelines,
mm-hmm. à l'OVSQ. Voilà. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, Valérie Masson-Delmotte a une citation intéressante. Si l'on n'agit pas maintenant, on va vers un monde où on sera en permanence en gestion de crise, et crise ouais. au pluriel. Ouais. Voilà. Alors quand on dit maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que c'est maintenant dans les 2 ans, 3 ans, 4 ans? Est-ce qu'on a un horizon un petit peu plus qui permettrait...
Je peux commencer à en dire un mot et puis je passerai ensuite la parole. Oui. Mais par exemple, le travail du GIEC est très important. Le dernier rapport du GIEC date d'octobre 2018, donc il a 6 mois, hein, ce rapport. Ouais. Et il met en exergue l'impact de l'augmentation de température moyenne sur le globe de 0,5 degrés. C'est-à-dire qu'actuellement, on est à un réchauffement de plus 1 degré sur la planète. Il est prévu, si tout continue business as usual, dans 20 ans, on sera à plus 1,5. Et dans 40 ans, on sera à plus 2 degrés. Et la différence entre plus 1,5 et plus 2 degrés est soulignée dans le rapport du GIEC, et il s'agit de différences considérables. Alors 1,5 degré, ça a l'air pas grand-chose comme ça quand on regarde la météo de tous les jours, mais les conséquences seront considérables sur la planète, au niveau de la biodiversité, au niveau de la fonte des glaces et du cercle polaire. On en aura des impacts extrêmement graves. Et ce que souligne le rapport du GIEC d'octobre 2018, mais aussi le précédent qui datait de 2014, c'est qu'en fait, il faut absolument agir pour réduire les impacts sur la planète au niveau des gaz à effet de serre, des émissions des gaz à effet de serre, dès maintenant, avec des solutions qui sont très fortes et qui seront prioritaires, hein, sur le reste de, enfin disons sur le business as usual, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde de pleine croissance, on est dans un monde où l'activité économique prime sur n'importe quoi d'autre, ouais. Et on laisse de côté vraiment le danger climatique qui, si on continue comme ça, va nous éclater à la figure. Mmh.
Je peux vous prendre une petite image si vous voulez. En fait, c'est imaginez-vous que nous sommes nous toute l'humanité, mais pas seulement l'humanité, toute la faune, toute la flore de la planète, nous sommes dans un train. La vitesse de ce train, c'est le réchauffement climatique. Et en face de nous, on a plusieurs routes et on a des murs. Et l'humanité collectivement a le pouvoir non seulement de choisir la voie du train, mais aussi de réduire la vitesse du train, parce qu'en fait, sur ces voies, il y a des murs. Si on continue à ce rythme, en fait, on va se fracasser de mur en mur. Et à chaque fois qu'on va fracasser un mur, les habitants du train, que sont les humains, la faune, la flore, va en subir les conséquences. Des inondations, des sécheresses, des événements climatiques de plus en plus importants et graves. Enfin, voilà. Et bon, c'est une décision à prendre collectivement.
Alors, il y a quelque chose d'assez frappant dans le paysage médiatique actuellement, c'est-à-dire que les arguments que vous êtes en train de donner, alors il y a un consensus scientifique, il y a de plus en plus de citoyens qui se mobilisent, mais j'ai l'impression que la réponse politique est quasi inexistante. Quand je dis quasi inexistante, c'est-à-dire qu'il va y avoir des propositions, certes, on va réduire les gaz à effet de serre, on va faire ci, on va faire ça, le tri, etc., mais que ces solutions qui sont proposées traduisent presque un manque de prise de conscience politique des enjeux et des problématiques à venir. Comment vous le percevez, vous, en tant qu'association qui devait rencontrer des élus, qui devait parler, échanger, est-ce que vous avez l'impression que ces élus, ils sont complètement à côté de la plaque au niveau de ce qui se passe, ou est-ce que vous considérez que ils ont des intérêts aussi, ils essaient de défendre peut-être, je sais pas, des industries, etc., des emplois, comme j'ai déjà entendu dans certains arguments, Philippe Tellier.
Je dirais que c'est pas que les élus ignorent ce problème, c'est qu'ils n'attachent pas une priorité absolue sur l'importance et l'urgence de ce problème. Ils font passer très souvent la croissance avant tout. Hein. Et quand on regarde le discours de Jacques Chirac en 2002, où il disait déjà « la maison brûle et nous regardons ailleurs », qu'est-ce qu'on a fait depuis? Si on avait fait des choses assez significatives et efficaces, on n'en serait sans doute pas là. Hein. Et c'est d'ailleurs l'un des objets de notre mouvement, c'est d'alerter, entre autres, les élus locaux, parce qu'on considère que, même à Saint-Quentin, les mesures prises ne sont pas à la hauteur des enjeux. Si on compare Saint-Quentin à d'autres villes équivalentes en population, je prends par exemple Dunkerque qui a 200 000 habitants, ben Dunkerque met sur la table 900 000 euros à disposition de ses administrés pour que chaque administré fasse la rénovation thermique nécessaire afin d'éviter les passoires thermiques. Hein. Et fasse des isolations efficaces.
C'est-à-dire rénover les maisons pour que elles consomment moins.
Alors que nous, puisqu'on est bien placés, on a tous participé à ce qu'on appelle le PCAET, c'est-à-dire le plan climat air énergie territoire que le Saint-Quentin est en train de finaliser. Eh bien, en tout et pour tout, alors évidemment, les associations sont sollicitées, hein, mais vous savez bien que nous, associations, on a très très peu de moyens. Et qu'est-ce qui est mis sur la table au niveau des PCAET? À l'heure où je vous parle, c'est 17 000 euros. Alors que Dunkerque dépense 900 000 euros. Hein. Si je prends Grenoble, ils mettent 150 000 euros à disposition d'associations environnementales. Et nous, on est à 17 000 euros.
Oui, donc on est très loin du compte. 17h passé de 32 minutes, on est un petit peu en retard. Tout de suite, le Flash Actu. La réhabilitation du quartier du Bois de l'Étang à La Verrière inquiète les habitants. Le collectif des locataires du quartier craint que les nouvelles constructions ne soient pas accessibles en raison de loyers trop élevés. D'autres habitants ne souhaitent tout simplement pas voir leur bâtiment détruit et préféreraient une réhabilitation. La décision de démolir ou pas sera prise en fin d'année. Les travaux de démolition de l'ancienne piscine de Morpan ont débuté la semaine dernière après une première phase de curage de l'intérieur du bâtiment. La structure sera désamiantée pendant un mois avant la démolition prévue cet été. Le nouveau centre aquatique réalisé en intercommunalité avec la ville d'Elancourt devrait ouvrir au cours du deuxième trimestre 2021. L'opposition dénonce, je cite, un grand gâchis. Le Skylab cherche de nouveaux locaux actuellement situés à La Verrière. Il doit déménager d'ici un an pour cause de travaux dans le secteur de la gare. Des tractations sont en cours avec l'agglomération. Pour rappel, le Skylab est un lieu associatif de partage de savoir et de savoir-faire où sont mises à disposition du public toutes sortes d'outils pour la conception et la réalisation d'objets. Pour terminer du sport, samedi dernier, les jeunes footballeurs moins de 15 ans de l'OSC Elancourt ont remporté l'Orange Football Challenge face au Racing Club de France. Une performance réussie sur la pelouse du Parc des Princes à la mi-temps du match de Ligue 1 PSG Dijon devant plus de 47 000 spectateurs. Et petite info supplémentaire, rendez-vous au gymnase Yuri Gagarin de Trappes ce samedi à 18h. Après la marche pour le climat, bien sûr, l'équipe de hand de la ville jouera la montée en régionale face à Conflans. Donc rendez-vous à ne pas manquer. Toujours avec nos trois invités, Philippe Tellier, Cyril Longuepé et François Apicella, membres du collectif Saint-Quentinois pour le climat, un collectif qui organise une première marche, la première marche pour le climat de Saint-Quentin en Yvelines. Une marche, on le disait tout à l'heure, hein, qui s'inscrit dans la continuité de peut-être un mouvement, on peut dire mondial, hein, et qui est porté notamment par une jeune fille, Greta Thunberg, qui a débuté sa grève pour le climat le 20 août dernier. Est-ce que c'est inspirant? Voilà, que ce soit aussi des jeunes générations qui prennent à bras le corps ce problème de réchauffement climatique.
Je dirais que Greta Thunberg, justement, a mis en évidence une chose intéressante et redoutable. C'est-à-dire que voilà une jeune adolescente qui a 16 ans, je crois, et qui n'a pas de pouvoir de vote, puisqu'elle n'est pas encore à l'âge de pouvoir mettre un bulletin de vote dans l'urne. Et qui constate, comme tous ses concitoyens du même âge, qu'elle ne peut pas peser sur la destinée de son pays et que les années passent. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a vu plusieurs fois au niveau médiatique intervenir. Et là, sa dernière intervention, c'était en début de cette année au Parlement de Strasbourg, où elle implorait, nous les adultes, de faire quelque chose. Donc c'est dans ce sillage-là qu'on essaye, nous, à notre niveau, ici, de faire en sorte que les adultes vraiment prennent conscience de l'urgence climatique.
Et oui, vous vouliez ajouter sur Longue Épée.
Oui, elle est quand même à l'initiative de quelque chose de très important, c'est qu'il y a eu déjà une, voire plusieurs grèves des jeunes pour le climat, et notre marche du 25 s'inscrit dans la continuité de cela, puisque la veille, le 24, il y a une deuxième grande grève internationale des jeunes, mais aussi des moins jeunes, pour le climat. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a une marche pour le climat, elle s'inscrit aussi, il y a une logique. Voilà, donc le 24, la grève, le 25, la marche.
Alors, toujours pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure et sur ce que vous espérez, en tout cas, des citoyens, c'est de la mobilisation, ça, on l'a compris, mais aussi par rapport aux politiques. J'aimerais vous donner l'exemple de la campagne Justice Climatique, l'affaire du siècle, donc qui a été lancée le 17 décembre dernier. La pétition qui a recueilli 2 millions de signatures en moins d'un mois. Donc, il y a une procédure qui a été engagée contre l'État le 14 mars 2019. Alors, j'ai cherché, hein, j'ai gratté. J'ai pas beaucoup de réactions politiques par rapport à cette pétition. Et du coup, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous espérez, vous, de cette marche du climat, vraiment au niveau politique? Est-ce qu'une marche, c'est suffisant? Est-ce qu'il faut carrément aller squatter un petit peu comme les gilets jaunes? Bon, on parle pas de violence, hein, encore, sans faire d'amalgame. Mais est-ce que, voilà, il faut changer de moyen d'action? Qu'est-ce qu'il faut? Parce que 2 millions, c'est pas rien. Ça fait longtemps qu'une pétition n'avait pas recueilli autant de signatures et en aussi peu de temps. Et dernière conférence de presse du chef de l'État. Alors là, on n'a aucun mot sur ça. François Pissella.
C'est assez symptomatique, hein. Le succès de la pétition, 2 millions de signataires, c'est quand même un sacré succès. Mmh. Ça montre quand même l'inquiétude des gens par rapport à ce problème. Je pense qu'évidemment c'est pas suffisant de faire une pétition. Tous les moyens sont bons, je pense, pour alerter la population, hein, sur ce sujet qui n'est pas prioritaire, une fois de plus, qui n'est pas pris au sérieux, pas suffisamment au sérieux par le gouvernement, par les décideurs et puis par les décideurs locaux. Ensuite, donc, c'est pour ça qu'il faut des marches, il faut des rapports du GIEC. Il faut des actions de grève des étudiants, par exemple. Il faut des appels, je dirais, de tous les organismes possibles, tous les groupements de citoyens possibles, afin de déclencher une véritable politique, une véritable stratégie nationale et européenne, bien entendu, et puis mondiale. Alors, au niveau mondial, on a quelques problèmes pour se mettre d'accord. Vous savez que les résultats de la COP 21, 22, 23, 24 sont pas terribles. 100% des pays ne sont pas signataires, hein, de ces grandes réunions.
D'autres se sont retirés.
Et malheureusement, d'autres se sont retirés. Malheureusement, ce sont pas les moins pollueurs qui se sont retirés. Malgré tout, cette convergence d'action, cette convergence de marche et puis d'appel, doit aboutir sur un résultat, à mon avis, qui sera peut-être pas tout de suite à la hauteur de l'enjeu, mais en tout cas qui répondra en grande partie à cet enjeu.
Philippe Tellier.
Oui, je dirais que ces mouvements de jeunes lycéens et de par le monde entier, c'est quand même assez inédit. Ouais. Hein, parce que ça fait longtemps que ce problème est soulevé, hein, mais c'est quand même la première fois qu'on voit des jeunes débarquer dans la rue. Et puis vous interrogiez tout à l'heure de savoir, mais qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour faire en sorte que les politiques se bougent. Il y a des mouvements qui ne sont pas les nôtres, mais qui vont jusqu'à pénétrer dans les mairies pour décrocher le portrait du président et l'emmener avec eux jusqu'à temps que le président décide de faire quelque chose de prioritaire pour l'environnement. Hein. Et ça se fait dans plusieurs mairies en ce moment en France. Alors nous, on n'en est pas là. Nous, ce qu'on espère, c'est que massivement, la population se mobilise pour justement montrer que c'est plus possible d'ignorer, de faire en sorte comme si la solution c'était à nouveau la croissance. Mmh. On sait que ça c'est une idéologie qui ne marche pas, en tout cas pour le climat.
Mmh. Alors pour terminer avec des informations pratiques pour samedi, alors l'horaire de rendez-vous et qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Est-ce que vous allez suivre un parcours? Voilà, comment ça va se passer sur la longue épée?
Effectivement, il y a un parcours de prévu. C'est rendez-vous à 10h30 à la gare de Montigny. Alors, je précise bien, c'est rendez-vous à la gare de Montigny. C'est pas pour aller sur Paris. J'ai eu la question, donc je précise, c'est pour rester à Montigny. C'est une marche locale à Montigny, une marche pacifique, familiale, où tout le monde est bienvenu, avec famille, enfants, enfin voilà, très pacifique. On part de la gare, on fera un arrêt à la poste pour symboliquement poster le dernier rapport du GIEC à destination des décideurs, à l'intention du président de l'agglomération.
Jean-Michel Fourgous.
Voilà, ouais. En espérant qu'il le lise et que tous les élus de l'agglo le lisent. Ensuite, on ira à l'OVSQ. L'OVSQ, bon, voilà, la bibliothèque, où on fera aussi un arrêt. Et on terminera au théâtre, où là, il y aura quelques messages qui seront passés, notamment des messages d'action concrète. Quand même, l'idée c'est ça. Si aujourd'hui nous sommes un collectif, et j'espère qu'on va encore grossir de 46, tous les jours, on a des associations qui nous rejoignent, que ce qu'elles soient sensibilisées ou pas aux problèmes de l'environnement, elles sont toutes les bienvenues. Aujourd'hui, on a 46 associations qui chacune à leur niveau agissent concrètement et peuvent montrer des pistes aux citoyens. Il faut quand même rappeler à l'heure où on va bientôt voter. Que le premier pouvoir des citoyens, et peut-être aujourd'hui l'un des plus importants, c'est en tant que consomme-acteur. Voilà. C'est-à-dire c'est notre mode de consommation qui va faire aussi que tout le système peut changer. C'est suivant ce que l'on achète, notre mode de consommation qui derrière va entraîner des changements. Parce que...
Consomme-action, ce sera le mot de conclusion. Donc rendez-vous ce samedi, le 25 mai, 10h30, devant la gare de Montigny, pour cette marche pour le climat. Merci en tout cas, messieurs, d'être venus parler
Merci à vous.
Ça à Marmite. Et puis bon courage pour la suite. Il est 17h passé de 42 minutes. On va marquer une seconde pause musicale avec l'artiste Cécile McLaurin-Salvant. Elle est en concert au Prisme à Élancourt le 28 mai. Et au théâtre de Saint-Quentin également, donc le titre Somewhere.
There's a place for us somewhere, a place for us. Peace and quiet and open air wait for us somewhere. There's a time for
Cécile McLaurin-Salvant sur les ondes de Marmite FM 88.4. Je corrige, elle est en concert au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines et pas au Prisme. Donc au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines le 28 mai prochain. Vous avez écouté le titre Somewhere. Allez, tout de suite, on écoute Chloé avec sa chronique Consommation responsable. Elle nous parle des compétences de l'Union européenne en termes d'écologie. Chloé.
Marmite FM présente la chronique Consommation responsable et développement durable avec Chloé.
Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours des élections européennes et je voulais me pencher sur cette élection d'un point de vue écologique. Pourquoi ? Parce que c'est une élection où beaucoup de gens s'abstiennent, notamment car les enjeux européens sont très mal et peu expliqués. Je vous rappelle que cette élection a lieu dimanche, qu'il n'y a qu'un seul tour et que les partis qui dépasseront la barre des 5% enverront des députés au Parlement européen proportionnellement à leurs résultats. Le Parlement européen comprend 705 députés, dont 74 à 79 qui seront élus dimanche en France. 74 à 79, tout dépend des Anglais et de leur Brexit. Donc, en quoi l'Union européenne est-elle décisionnaire au niveau de l'environnement ? Il faut savoir qu'elle a des compétences exclusives, des compétences partagées avec les États membres, ainsi que des compétences pour coordonner ou compléter l'action des États membres. Dans ses compétences exclusives, c'est-à-dire qu'elle décide elle-même que les États n'ont plus à intervenir, on retrouve notamment la conservation des ressources biologiques marines dans le cadre de la politique commune de la pêche. Et dans ses compétences partagées, alors partagées, c'est-à-dire que c'est l'Union européenne qui décide et que si elle ne prend pas de décision, les États membres peuvent intervenir. Mais si elle intervient, les États membres n'ont plus rien à dire. Donc dans ces compétences partagées, il y a l'agriculture et la pêche, l'environnement, la protection des consommateurs, les transports, l'énergie, etc. Bref, l'Europe est donc bien au cœur des décisions touchant à notre bien-être, à l'environnement et à toutes ces questions essentielles aujourd'hui. Je voudrais maintenant revenir sur les votes des différents groupes au Parlement européen sur les questions écologiques, pour voir un petit peu où on en est et peut-être vous aider à prendre une pour votre vote de dimanche. Concernant tout d'abord les pesticides, une chose est sûre, écologistes, ceux de la gauche unitaire européenne, alors qu'est-ce que c'est la gauche unitaire européenne ? En fait, ça regroupe différents partis de différents pays. Chez nous, en fait, ça correspond plutôt à la France insoumise et le Parti communiste français. Donc, je reprends les 0 députés écologistes, donc chez nous, on va dire Europe Écologie Les Verts, et ceux de la gauche unitaire européenne, ainsi que les socialistes, se sont régulièrement battus ces 5 dernières années pour faire reculer les pesticides à l'échelle européenne. En revanche, la droite, PPE, ainsi que les centristes, ALDE, alors qu'est-ce que ça comprend ? Le PPE, on va dire, c'est le groupe européen dont font partie le groupe Les Républicains. L'ALDE, on va dire, ce sont les députés qui comprennent les députés du MoDem et le groupe également que rejoindront les députés de La République En Marche qui seront élus dimanche. Donc je disais la droite PPE et les démocrates libéraux ALDE ont compliqué l'avancée des travaux en commission sur les pesticides. En effet, par exemple, le PPE, auquel les Républicains sont affiliés, avait contesté le principe même de la création d'une commission spéciale. Il justifie cela en disant qu'il voulait éviter de faire un procès à Monsanto. L'opposition à cet organe de contrôle, finalement, a conduit à ce que le mandat de la commission ne porte pas uniquement sur le glyphosate, mais sur les pesticides en général. Mais bon, ça a quand même été voté. On passe à un autre sujet, la pêche électrique. Alors, le 16 avril dernier, le Parlement européen a entériné l'interdiction de la pêche électrique en Europe à partir du 1er juillet 2021. Je vous rappelle, cette technique industrielle consiste à lancer un large filet qui racle les fonds marins et envoie une décharge électrique aux poissons qui les paralyse et les amène à remonter à la surface. Donc en fait, l'association Bloom, qui est le fer de lance de cette bataille, a mené en fait une analyse des 32 votes considérés comme les plus importants concernant la pêche et sa durabilité au Parlement européen. Le résultat de l'analyse des votes montre que les 0 députés issus des Républicains sont les plus mauvais élèves, car ils ont multiplié en fait les votes allant dans le sens de la continuité de la pêche électrique. Par contre, à l'autre bout, ce sont les députés écologistes qui se sont révélés les plus ardents défenseurs de la protection des mers, ainsi que les membres de la gauche unitaire européenne. Voilà. Concernant les mesures les plus ambitieuses pour lutter contre le dérèglement climatique, le réseau Action Climat a lui aussi développé un outil passant au crible les votes sur plusieurs textes. Puisque l'Union européenne s'était engagée en 2014 à réduire ses émissions de 40% d'ici 2030. Le 29 octobre 2018, les élus écologistes, socialistes, de la gauche radicale ainsi que les centristes se sont accordés pour élever cette ambition à 55%. Ils ont également défendu une Europe neutre en gaz à effet de serre d'ici 30 ans, ce qui suppose de ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que le pays ou l'Union européenne ne peut en absorber via les écosystèmes, les forêts, les sols, etc. Ou certains procédés industriels très controversés tels que la capture et le stockage de carbone. La droite conservatrice, dont les Républicains, a accepté la neutralité pour 2050 sans pour autant réviser à la hausse des objectifs de 2030. En revanche, l'extrême droite, dont fait partie le Rassemblement national, Debout pour la France, ont rejeté pour une majorité d'entre eux la révision à la hausse des objectifs climatiques pour 2030 et 2050. De toute façon, un rapport publié en février 2019 souligne que deux députés sur trois faisant partie du groupe populiste, dont le Rassemblement national fait partie, votent régulièrement contre les mesures relatives aux politiques climatiques et énergétiques. Concernant le développement des énergies renouvelables, l'idée était de faire en sorte que près de la moitié de l'énergie consommée en Europe en 2030 soit issue des sources renouvelables, ce qui est défendu par les eurodéputés de la gauche et écologistes au Parlement européen le 17 janvier 2018. Mais en fait, la bataille a été remportée par les centristes ainsi que la droite, qui ont préféré un objectif moins ambitieux. Qu'en est-il de la sobriété énergétique ? En janvier 2018, les députés européens ont adopté une législation visant à réduire la consommation d'énergie d'un tiers d'ici 2030. On retrouve là encore les mêmes positionnements, alors que les socialistes, les écologistes et la gauche radicale s'étaient prononcés en faveur de cette efficacité énergétique. Les eurodéputés issus des Républicains et de La République En Marche s'y sont engagés très partiellement et l'extrême droite s'est opposée au principe même d'économie d'énergie. Concernant dernièrement les transports, il faut savoir que les poids lourds représentent 25% des émissions de CO2 de transport routier et environ 5% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne. Alors que l'Union ne disposait d'aucun cadre réglementaire pour limiter ces émissions, les États et le Parlement européen se sont finalement accordés fin 2018 pour fixer les premières normes. Celles-ci permettront de contraindre les émissions de CO2 de camions neufs mis sur le marché par les constructeurs. Écologistes, socialistes et gauche radicale souhaitaient que les poids lourds réduisent leurs émissions d'au moins 35% d'ici 10 ans. Selon le réseau Action Climat, le gouvernement français a adopté une position ambivalente tout au long des négociations en souhaitant relever l'objectif de long terme proposé par la Commission européenne tout en soutenant une limite de réduction faible pour 2025. C'est finalement cette position qui l'a emportée avec un objectif de réduction d'au moins 15% en 2025 et de 30% en 2030 par rapport à 2019. La droite et l'extrême droite qui se sont prononcées contre un cadre réglementaire ont rechigné à imposer de réelles contraintes aux constructeurs de transport routier dans leur vote. Voilà quelques exemples des votes des députés du Parlement européen, peut-être pour vous aider dans votre réflexion pour aller voter dimanche. Je vous souhaite une bonne après-midi en compagnie de Marmite FM et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Chloé, 17h54. C'est au tour de Shaima de prendre la parole et elle nous présente aujourd'hui le site QOS proposé par le Conseil régional d'Île-de-France. Une nouvelle plateforme pour apprendre les langues étrangères de manière originale, Shaima.
Ah, effectivement, on va pas se mentir, les Français sont connus pour être des quilles en langue étrangère. Non mais c'est vrai. C'est pour cette raison que la région de Île-de-France a lancé une application gratuite appelée QOS, qui a pour but d'ici 2022 de réconcilier les franciliens de plus de 15 ans avec l'apprentissage des langues étrangères. Alors l'inscription est simple et rapide. Le site vous demande seulement quel type de sujet vous intéresse, que ce soit art, justice, tourisme, économie, sport et j'en passe.
Alors, quelle est la particularité de cette plateforme ?
Alors, c'est tout bête, mais c'est la mise à disposition d'extraits de séries, de films ou de clips musicaux, appréciés bien évidemment du grand public. Ces vidéos vont aider le francilien à apprendre la langue de manière plus ludique. Mais le problème, c'est que la raison la plus courante, c'est que ces jeunes laissent facilement tomber l'apprentissage linguistique, car ils sont traumatisés, soi-disant, par l'enseignement scolaire jugé trop académique. Mmh. Donc du coup, ça leur laisse quelques séquelles. Donc c'est pour ça que la région d'Île-de-France a mis en place cette plateforme. Ça pose aussi un problème en termes d'insertion sur le marché du travail. Un chiffre, par exemple, 45% des entreprises qui recrutent demandent de parler l'anglais couramment. Et c'est la même chose pour les concours, qui comportent souvent un examen à la fois écrit et oral en anglais.
Alors, quelles langues sont disponibles pour l'instant sur la plateforme ?
Alors, pour le moment, il n'y a que l'anglais, version américain et british. Comme ça, vous aurez pour tous les goûts, avec du français, de l'espagnol et de l'allemand. Et prochainement, ils mettront du chinois. Mais il y a quand même un petit bémol, comme toute nouvelle création, c'est l'accompagnement des plus jeunes. Certes, l'appli est innovante, mais personnellement, je pense que pour les plus jeunes qui essaieront environ, on va dire, 3-4 sessions, pas plus, eh ben, je pense qu'ils ont besoin d'un accompagnement, histoire qu'ils soient plus motivés. Mais en tout cas, pour les plus actifs, ça va poser aucun problème, car ils pourront apprendre chez eux tout en s'amusant. Alors, j'ai une question à vous proposer.
Donc, Shama veut nous tester.
Non, c'est avant. Oui, avant le petit jeu prévu. Alors, devinez pourquoi la région d'Île-de-France a mis en place cette plateforme.
Pourquoi il y a une personnalité connue qui va venir en France.
Il y a un enjeu.
Un enjeu?
Ouais.
Les Jeux Olympiques.
Ouais, bien joué.
Ouais.
Bien joué. On voit que c'est un journaliste professionnel, tu vois. Bref, les JO de 2024 sont en jeu et l'objectif, c'est que tout le bassin d'Île-de-France puisse bien accueillir l'événement ainsi que le flot de touristes qui viendra séjourner en partie en Île-de-France. Alors du coup, là, on va tester... je vais tester ton niveau.
Ouais, bon, non, c'est moi qui vais tester vos niveaux.
Ah, oui, d'accord. Julien va tester nos niveaux. Ouais, allez, vas-y.
Vous voulez commencer par quoi? L'anglais ou l'espagnol? Allez, anglais, je choisis pas.
Ouais, anglais, parce que sinon l'espagnol, c'est catastrophique. Donc, tu nous donnes un extrait, c'est ça?
Un extrait, là, c'est un extrait de film. Mm-hmm. Voilà, vous allez devoir traduire.
Game of Thrones, je pense que c'est Game of Thrones.
On écoute. You are a Stark. You might not have my name, but you have my blood. Is my mother alive? Does she know about me, where I am, where I'm going? Does she care? The next time we see each other, we'll talk about your mother, I promise. Alors? Ah oui, les barons, lui, la prochaine fois, tu dois te prendre des notes, c'est super long. Alors, je sais pas, il dit you are Stark, je sais pas quoi. J'ai pas entendu le début.
Ouais, ça, Stark, c'est un nom de famille.
Stark, ah voilà, you are Stark, donc c'est un nom de famille. Et puis après, il parle de sa famille. Je crois que pour défendre... Mais non, parce qu'en fait, c'était tellement long que j'ai oublié. Faudrait qu'il
remette... Il parle de sa mère, il dit comment va ma mère, etc.
Non, il demande si sa mère se soucie de lui. Voilà.
Okay,
voilà. Et son père lui répond... la prochaine fois que je te verrai, je te parlerai de ta mère.
Ça, c'est Game of Thrones.
Ça, c'est Game of Thrones.
Ok, super.
Allez, maintenant un petit extrait en espagnol. On va voir si vous êtes meilleur. Les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados. O sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores. No puedo mover un dedo.
Ah, traduit, je sais pas, parce que j'ai compris.
J'adore, en plus c'est l'accent colombien, l'accent que je préfère.
Oui, alors de quoi ça parle? Donc c'est Pablo Escobar.
Je suis Pablo Escobar. Attends, tu peux remettre ce...
Non, on n'a pas le temps de remettre.
Non, il dit, je vais vous dire qui je suis Pablo Escobar. À chaque fois que vous bougez une seule oreille, même une oreille, je le sais.
Je suis au courant,
Voilà, je suis au courant de tout ce qui se passe par ici.
Bah, je crois qu'on a plus le temps de faire d'autres extraits. Allez, si on a le temps, un dernier.
Un petit dernier, en espagnol.
Germaine, aquí estoy. Hay un misterio que quiero aclarar.
¿Cuál es?
Había aquí una maleta que para mí tenía mucha importancia.
¿La de los 60 millones en joyas?
Déjese de tonterías, ya ve usted que mi marido no está para bromas.
¡Silencio!
¡Papá!
¡Cállate!
Solo quiero decirte que Bernadette se ha llevado tu maleta.
Alors, ça parle de quelqu'un qui veut résoudre un mystère, un problème,
ouais.
En disant que sa mallette avec de l'argent a disparu.
Ouais.
C'est pas ça?
Si, c'est à peu près ça. Tu veux la traduction?
Oui, vas-y.
Allez, je l'ai.
Bon, il y a un mystère que je veux éclaircir.
Quoi donc?
J'avais ici une valise à laquelle j'attachais beaucoup d'importance.
Celle qui contenait 60 millions de bijoux.
Ne dites donc pas de bêtises, vous voyez bien que mon mari n'a pas le cœur à plaisanter.
Silence!
Papa!
Tais-toi!
C'était pour te dire que Bernadette l'avait rapportée, ta valise.
Voilà.
C'est beaucoup plus sympa quand c'est Lutte Finesse.
C'est Lutte Finesse, ouais. C'est clair.
En tout cas, merci Shaima, merci Julien pour ce petit jeu de fan Marmite Actu. C'est terminé pour cette émission. Je vous laisse avec Jean-François et le temps de faire le ferrain à l'affaire. Ce soir, c'est l'antisèche à 20h. Julien, c'est chroniqueur qui recevront les membres de l'équipe de la Tour Mélewatt. Voilà, donc 20h pétante. N'hésitez pas à vous brancher sur le 88.4. Bonne suite de programme sur Marmite FM.
Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revues de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, Nos invités vous parleront de leur actu. Marmite et son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.